Une femme, fichier 4. Au retour, l'enfant fut morose, de mauvaise humeur. La mère fit venir Danègre. Il conseilla le repos et la diète, puis, accompagnant Lucie dans sa chambre, il la tranquillisa. Elle se dégantait, rassérénée, le buste penché en une pose attentive, les joues roses et la bouche fraîche sous sa voilette encore baissée, entre les brides en velours de son chapeau. Il vit sa main nue. Une pâleur l'envahit et il recommença ses exhortations. « Du courage, ce n'est rien. Trop tard, dehors, c'était inévitable. » Indéfiniment, avec une sorte d'inconscience, il continuait à bredouiller de petits bouts de phrases. Lucie ne bougeait pas, interdite, son autre gant à moitié retourné. Et soudain, de ses doigts crispés, il la saisit à l'épaule et l'entraîna vers la chaise longue. Il s'en alla, sans un mot. C'était chez cet homme de tempérament froid, des poussées de désir irrésistibles qui le jetaient comme une brute sur la première venue. Toujours correct dans l'exercice de son art, il avait parfois des coups de folie furieuse à l'aspect d'un coin de peau, d'une mèche de cheveux, d'une posture quelconque. Sans doute, connaissant trop chez la femme l'être physiologique, il n'éprouvait que du dégoût pour cette chair qu'il découpait et torturait journellement. Il avait vu tant de vilains corps, tant de lignes déformées, tant de maigreurs hideuses, tant de monstruosités, tant de malpropreté, qu'un dévêtement même partiel éteignait en lui toute ardeur. Ses sens, par une perversion vainement combattue, ne s'allumaient qu'auprès d'une femme habillée, coiffée, cuirassée d'une robe. Lucie ne s'expliqua jamais sa conduite. Il demeura pour elle obscur, impénétrable. Plusieurs fois elle voulut l'interroger. Il semblait ne pas entendre, et elle y renonça. Ayant l'intuition vague de sa manie, elle ne s'offrit plus à lui. Des séries de jours passaient, vides, identiques, puis subitement, sans raison appréciable, il la prenait. Elle vécut à cette époque d'une vie délicieuse. Non qu'elle aimât le docteur, ni qu'elle s'en crût aimée, mais il lui procurait d'ineffables sensations. Lui, présent, elle frémissait dans l'attente et dans la crainte continuelle de son attaque. À certaines minutes, elle défaillait d'avance, sûre, à l'expression de son visage, d'être emportée, pétrie, violentée. Mais souvent aussi, il s'emparait d'elle à l'improviste, et c'était pour Lucie la plus exquise jouissance, cette agression brusque, au milieu d'un mot, alors que nul indice ne l'y avait préparé. Il la quittait ensuite sans un adieu, et elle restait là, longtemps, étourdie, ne comprenant pas. Qu'avait-elle fait? Qu'avait-elle dit qui détermina en lui cette explosion de désir? Elle ne se souvenait pourtant d'aucun geste équivoque, d'aucune coquetterie. Incapable de trouver une cause suffisante à ses crises, elle finit par les attribuer à la toute-puissance de sa séduction. Elle se créa de cette manière de belles joies d'orgueil. René se rétablit. Dès lors, sa mère simula un malaise qui nécessita la visite quotidienne du docteur. Chalmain n'y assistait que rarement, mais l'appréhension de son arrivée doublait l'acuité de leur plaisir. L'audace de son amant épouvantait Lucie. Il l'étreignait au hasard, sans nul souci de la bonne ou du mari qui pouvait survenir. Un soir, ce fut un bruit de pas, le pas de Robert, qui désenlaça leurs bras. Cette nuit-là, des cauchemars la réveillèrent en sanglots. Danègre, cependant, goûtait fort le charme de cette liaison, qui régularisait peu à peu les emportements de sa nature. Et il multiplia si bien les occasions de voir sa maîtresse que M. Bouju-Gavard en fut alarmé. Corrigé de sa forfanterie et n'espérant plus se guérir, Parrain rôdait humblement autour de Lucie, vaincu, misérable, et il avait des attitudes contrites et soumises dont elle se divertissait avec méchanceté. Maintes fois il croisa le docteur, ou dut attendre, en maugréant, l'issue de la consultation. Et chacune de ces fois, il eut à souffrir des taquineries que Lucie lui prodiguait. Il le remarqua. Des faits insignifiants le frappèrent. Une angoisse le mordit au cœur. Le supplice du doute lui fut bientôt si intolérable qu'il préféra l'horrible certitude. Choisissant une heure où Madame Chalmin lui avait manifesté de la compassion, il prononça d'un ton hésitant « Ne crains-tu pas que l'on ne suspecte à la fin les assiduités du docteur ?»« Pourquoi cela ? Je suis malade. Il me soigne, voilà tout. » »« Il te soigne, c'est l'excuse apparente. Mais tu ne me soutiendras pas que ton état l'oblige à s'enfermer dans ta chambre soir et matin. » Et vous en concluez ? J'en conclus que vos entretiens n'ont pas exclusivement rapport à ton indisposition. Elle dit très calme : Vous n'avez peut-être pas tort, j'en conviens. Il la regarda, tremblant maintenant à l'approche de la vérité, et il suppliait : Tais-toi, oh Lucie, tais-toi, ne me rends pas fou. Elle se détira et baissa les paupières comme pour s'assoupir. Cette indifférence accrut sa douleur, et il haleta. « Eh bien, non, parle, j'aime autant savoir. »« Savoir quoi ? » fit-elle. Il se glissa jusqu'à son oreille, incapable de formuler à haute voix cette accusation. « C'est ton amant, n'est-ce pas ? » Quelque chose de plus fort qu'elle, l'ennui de mentir, le besoin d'un épanchement, ou plutôt un instinct mauvais, lui imposa sa réponse. Elle dit « Oui, c'est mon amant. » Il resta confondu d'abord. Malgré tout, il croyait en son honnêteté. Et cet aveu fut pour lui un coup imprévu, formidable. Puis il eut l'envie furieuse de la battre et de la traîner par les cheveux comme une fille. Et des injures lui vinrent, qu'il lui jeta à la face avec un mépris haineux. « Et c'est ça que j'ai respecté, car tu auras beau te défendre. Si je ne t'ai pas eu, c'est que je ne t'ai pas voulu. Je n'avais qu'à étendre la main. As-tu dû te moquer de moi, un gaillard de mon espèce, se laisser rouler par une débutante ?» Il se reprit en riant. « Toi, une débutante, disons plutôt une rouée, une farceuse. Quand je pense que je t'ai refusé, j'étais assez naïf. » Là, surtout, le brûlait sa blessure. Il croyait sincèrement l'avoir dédaignée, et se souvenant de quelques scrupules confus dont il s'était d'ailleurs vite débarrassé, il se reprochait sa délicatesse, comme d'autres leurs crimes. Il lui demanda « Tu l'aimes, ce monsieur ?» Elle repartit, toujours nonchalante. « Pourquoi pas ? Il est bel homme, instruit, spirituel, et jeune, lui. » Il courba la tête. « C'est vrai, moi je suis vieux, et les vieux, ça ne compte pas. Et pourtant, ajouta-t-il tristement, moi je t'aime comme pas un d'eux ne t'aime, et depuis bien des années. » Durant une semaine, elle ne le revit point. Il reparut, puis disparut encore. Elle apprit qu'il voyageait. Madame Chalmin prépara son départ pour les bains de mer plusieurs jours auparavant. La conduite de Danègre la déroutait. Elle ignorait ses intentions. S'écrirait-il ? Se retrouverait-on à Dieppe ou seulement au retour ? Mais l'aspect des malles éparses, des casiers gonflés, des tiroirs vides, tout ce désordre qui annonçait la séparation immédiate, ne put rompre son silence. Alors, la veille, s'armant de courage, elle l'apostropha. « C'est demain que je m'en vais, tu sais. Tu n'as rien à me recommander ?» Il fit signe que non. « Et des vacances, tu ne t'en accordes pas ?»« Si, » dit-il, « je vais en Suisse, à Évian. » Un peu émue, elle soupira. « À bientôt, donc, mon ami. » Il répéta. « À bientôt. » et lui toucha le front de ses lèvres. Elle fut sur le point d'implorer une parole plus cordiale, plus affectueuse, pour cet adieu qu'elle devinait le dernier. Mais elle sentit qu'elle n'y avait aucun droit. Ils ne s'aimaient pas. De courtes étreintes les avaient unis, viles, grossières, distancées. Un intervalle plus long commençait. Elle le laissa partir. À Dieppe, elle entama deux intrigues, l'une avec un jeune homme de Paris, élégant, amateur de chevaux, soucieux de sa toilette, l'autre avec le premier violon de l'orchestre, une figure blafarde, encadrée de cheveux d'ébène. Elles n'aboutirent point, sans qu'elle sût pourquoi. L'été fut maussade, elle s'ennuya, vit à peine M. Bouju-Gavard et revint à Rouen, avide de plaisir. Chapitre 3. Un dimanche de foire, Saint-Romain, en allant au cirque avec l'enfant, Robert arrêta sa femme devant la boutique d'un Russe dont il avait remarqué la collection de fourrures. À l'affût derrière son étalage, Marcof souriait d'un air engageant au flâneur qu'attirait son bonnet de loutre et sa tunique de velours noir dont l'étoffe se tendait comme une cuirasse sur son buste large. Il était grand, fort et d'aspect débonnaire. Lucie marchanda une garniture d'astrakhan pour Manchon. Il la laissait à 50 francs. Elle se récria, trouvant le prix trop élevé. Mais durant toute la représentation et au cours de la soirée, elle reparla si souvent de ce morceau de fourrure que Robert lui dit le lendemain « Tiens, voilà de l'argent, dépense-le à ta guise. » De rares promeneurs erraient. Des nuages lourds écrasaient la ville, l'un d'eux creva, et la jeune femme se réfugia sous l'avancement en planche qu'offrait la boutique de Marcof. Il fit preuve d'une complaisance inépuisable. Il déballa toutes ses peaux de bêtes, dépouilles avariées de martres, de zibelines, de renards, d'ours, de marmottes. Et à chaque exhibition, il affirmait d'un air convaincu « C'est joli, ça !» Même il la jugea digne d'admirer un tas d'objets achetés un peu partout et qu'il réservait aux amateurs. Des ceintures à clous d'argent, des broderies roumaines, des sabres japonais, des cristaux de Damas, des carabines, des morses, des étriers. Quand il eut bouleversé son magasin, l'averse continuait, furieuse. Il eut un geste désolé. « Pauvre madame !» Alors, pour la distraire, il se mit à causer de son pays, de sa femme, de sa demeure, dont il expliqua la forme et la disposition. Il raconta ses voyages, il décrivit de lointaines cités auxquelles il donnait des noms inconnus. Et il employait un jargon bizarre, hérissé de locutions incorrectes, compliqué de mots étrangers, plein d'images pittoresques et naïves. Sans chercher à comprendre le sens des paroles, Lucie l'écoutait. Il avait une voix d'un charme inexprimable, qui prêtait de la douceur au son rauque de sa langue. S'il se taisait, elle l'interrogeait pour que ne cessât point l'ivresse subie. Et il continuait, de son accent profond et sincère, aux inflexions chantantes. Elle fit de telles acquisitions et à des prix si élevés que son mari le lui reprocha vivement. Elle n'en fréquenta pas moins Marcof, mais en cachette le plus souvent, et sans rien acheter. Le mauvais temps persistait. Peu de personnes se risquaient à la foire. Elle s'oubliait auprès de lui, sans redouter de fâcheuses rencontres. Parfois, la pluie chassait avec tant de violence que Lucie montait une marche et s'abritait à l'entrée de la cabane. Dès les premiers jours, elle le tutoya, naturellement, sans effort, comme un être de race inférieure à la sienne. Marcof, que guidait son flair de marchand âpre au gain, la traitait en idole. Cette aventure l'intimidait. Il ne savait au juste ce que lui voulait cette femme. Aussi, craignant de l'irriter, il se contentait de la regarder avec extase. Il avait des silences rêveurs et des mélancolies significatives. Elle l'accablait de ses coquetteries les plus savantes. Elle lui servit tout son répertoire de grasses mièvres et de petits cribadins. Elle eut tour à tour des gentillesses et des duretés, fut enjôleuse, charmeuse, mignonne, enveloppante. Et ils se battaient ainsi galamment, lui à l'aide de supplications muettes, elle à coups de yades incendiaires. Leurs rapports devinrent plus familiers. En palpant les fourrures, leurs doigts se touchaient. Lucie ne retirait pas les siens et il ne bougeait plus, éternisait la sensation délicieuse de ce contact. Il s'enhardit même, courbé à terre, jusqu'à lui presser la main contre ses lèvres, en balbutiant d'un ton passionné des mots qu'elle ne saisit point. Debout, le corps tourné vers les passants, elle savourait l'adoration de cet homme, dont elle sentait sur sa peau les larmes brûlantes, et elle songeait orgueilleusement à l'étrangeté de cet amour. Un soir, vers 5 heures, elle le surprit qui préparait du thé. Il tombait un brouillard dense. Les magasins, en face, fermaient. Elle pénétra bravement dans le fond de la boutique, derrière l'étalage. C'était un couloir étroit, qu'occupait à une extrémité un tabouret et un petit poêle, et à l'autre un lit composé de coussins. « C'est là que tu dors et que tu manges ?» dit-elle. « Oui, c'est là. » Elle s'assit. Il lui offrit une tasse. Elle la vida, ainsi qu'une seconde et une troisième. Ensuite, elle s'étendit sur les coussins et fuma des cigarettes du Levant. Une lanterne les éclairait. Marcof s'agenouilla. Délicatement, il défit les bottines boueuses, sécha les bas humides entre ses paumes jointes et lui baisa les pieds et les jambes. Quand elle partit, il osa dire, très bas, « Si tu veux, demain, toujours à la nuit, je fermerai. Tu frapperas ici. » Et il désignait une petite porte située au fond de la cabane. Elle ne répondit pas. Elle se leva, le jour suivant, avec la certitude qu'elle n'irait pas au rendez-vous de Marcof. Elle se refusait intérieurement à cette chute, non que l'homme lui déplût, mais par une sorte de honte irraisonnée. Après le déjeuner, elle rejoignit sa mère chez la couturière. Elles firent ensemble plusieurs courses. Soudain, à 4 heures, Lucie, alléguant une forte migraine, quitta Madame Ramel, traversa le jardin Solferino et gravit la rue Bouvreuil. À mi-chemin, elle avisa un monsieur qui arpentait le trottoir, le menton enseveli dans le col de son pardessus, la tournure furtive. Elle reconnut Monsieur Bouju-Gavard. De temps à autre, il collait son œil à la vitrine d'un magasin où des ouvrières repassaient. Elle l'accosta et, s'emparant de son bras, « Je vous y pince à maître infidèle. Si vous tenez à mon pardon, il faut m'escorter. » Il obéit machinalement. Aussitôt, Madame Chalmin reprit. « Allons, parrain, expliquez-moi votre conduite. Il y a quelques mois, on ne voyait que vous. Vous m'aimiez, vous soupiriez, et puis tout à coup, vous me faites faux bond sans même m'avertir. » Il avançait péniblement, par un effort visible, le dos courbé. À la clarté d'un réverbère, elle constata l'altération de ses traits. Il repartit avec lassitude. « Hélas, tu n'as pas à être jalouse. Rien ne pourra me délivrer de toi. Et puis, que t'importe? N'en as-tu pas d'autre que moi pour t'aimer? Tu le sais bien, c'est cela surtout qui m'éloigne. J'en souffre trop. » Elle eut pitié de lui et, gaiement, « Non, vrai, parrain, vous avez pris ça au sérieux, vous? Un vieux routier, comme vous dites? Vous n'avez pas vu que je plaisantais ?» Après une pause, elle grommela d'un ton pincé, « Quelle belle opinion vous avez de moi !» Il ne la crut pas, mais un peu de bien-être l'envahit. Et comme à la foire elle tentait de se débarrasser de lui, il supplia, « Je t'en prie, laisse-moi t'accompagner, cela me fait plaisir de te revoir, malgré tout. » Elle devait décliner son offre. Accepter était déloyal et cruel, contraire au mouvement généreux qu'il avait engagé à mentir. Elle le sentit, et pourtant ne le renvoya point. Ils tournèrent à droite, et 100 pas après, elle s'esquivait en disant « Promenez-vous jusqu'à la place Beauvoisine, je vous rejoins. » Elle se glissa par l'intervalle qui séparait deux boutiques. Derrière, elle suivit le passage resserré qui longe les habitations, lugubre, sale, obstrué de caisses éventrées d'où jaillissaient des morceaux de paille. De rares becs de gaz la guidaient. Elle se heurta contre une échelle, marcha dans le ruisseau, et les pierres du chemin lui blessaient les pieds. Puis, où s'adresser? Comment s'y reconnaître parmi toutes ces baraques semblables? Se rappelant enfin le numéro de la maison opposée, elle réussit à le découvrir. Alors, elle aperçut la porte basse. Une hésitation l'arrêta. Son cœur battait, désordonné. La nécessité d'accomplir elle-même une démarche décisive la troublait. Somme toute, ses deux premières fautes avaient l'excuse d'essence, d'une défaillance irréfléchie. Elle n'avait fait que succomber. Là, il fallait agir. Elle s'y détermina tout d'un coup et, s'approchant, frappa. Monsieur Bouju-Gavard attendit une heure entière. D'abord, il flâna devant les étalages, des légions de poupées, des carrés de pain d'épices, des tas de nougats, des couteaux, des lorgnettes, attirèrent successivement son attention. À tout instant, il consultait sa montre, étonné de ce retard. Place Beauvoisine, les cloches et les tambours des saltimbanques faisaient un tumulte discordant. Sur une estrade, un couple qui vendait des romances chantait en raclant du violon à la lueur triste d'une bougie. Il les écouta, déchiffra l'enseigne d'une auberge, une croix enlacée par un signe, avec ces mots en grosses lettres « Au signe de la croix ». Puis redescendit le boulevard. Une inquiétude germait en lui. Il flaira quelque infamie et, se remémorant les dures souffrances déjà supportées, ses fuites, ses guérisons, ses rechutes, il se repentit amèrement de l'avoir accompagné. Un souvenir l'assaillit. La semaine précédente, Chalmin s'était plaint des dépenses de sa femme chez un Russe. À tout hasard, il s'informa près d'un marchand de jouets. On lui montra la boutique de Markov. Elle était close. Une peur lui brisa les jambes. Il dut s'adosser à un arbre et il attendit, les yeux fixés sur l'endroit désigné. Il en vit sortir Madame Chalmin. Ils s'en allèrent, et Lucie s'exclama, heureuse, sans intention méchante, « Ouf, ça y est !» Elle le sentit qui frissonnait de tout son corps. Il n'eut cependant aucune révolte. Ils continuèrent leur route, silencieux. Plusieurs fois encore, elle recommença cette escapade. Robert ne la questionnant jamais, elle partait à la nuit tombante et rentrait au moment du repas. Mais la discrétion bonasse de son mari la lassa. Et moins pour lui donner confiance que pour le duper, elle lui rendit compte de sa vie avec cette précision de détails et cette abondance de preuves qui sont chez les femmes des symptômes si graves de culpabilité. À telle heure, elle faisait une visite telle rue. À telle autre, elle saluait telle personne. Dans ce magasin, elle achetait ceci, dans cet autre, cela. Et elle tirait d'une armoire quelque étoffe ou quelque dentelle sans emploi. Son bavardage la grisait. Elle s'embarquait dans des histoires extravagantes, citant des conversations, inventant les réponses textuelles de son interlocuteur, ses jeux de physionomie, son costume, sa pose, s'embrouillant, se contredisant, compliquant sa fable d'incidents inutiles, propres à la démasquer. L'articulation d'un mensonge lui procurait une volupté qu'aiguisait une angoisse continue. Un fait insignifiant lui devenait agréable dès qu'elle l'avait suffisamment travesti. Un fait en tout point imaginé lui semblait un exploit dont elle s'enorgueillissait. Avec le Russe, cet instinct perfide s'exerça d'une autre manière. Pour lui comme pour Amédée, elle embellit son existence. Ne pouvant prétendre entre ses bras à une vertu austère, elle se confectionna un passé romanesque. Elle l'éblouit par des aveux où retentissaient des noms de nobles, d'hommes publics, de mondains célèbres, d'artistes en vogue. La passion de Le Mercier, enjolivée, idéalisée, lui fournit une séance. Celle du musicien de Dieppe, transformé en compositeur génial, remplit la seconde. La troisième fut consacrée à Richard, dont elle fit un gros commerçant méridional. D'un nègre aussi, et parrain des filaires, l'un sombre figure, énigmatique et terrifiante, l'autre brûlé de désir, hâve, amaigri, pitoyable. Et tout cela coulait naturellement, paisiblement, comme l'eau d'un fleuve. Les mots et les anecdotes lui venaient sans qu'elle les cherchât. Elle débitait ses exagérations comme d'autres énoncent des vérités, sans plus de honte ni de rougeur, sans même se douter de sa fourberie. Elle aimait, sur les coussins de Marcof, ses entretiens à mi-voix, qu'elle suspendait pour boire une tasse de thé ou fumer une cigarette. Cette liaison, d'ailleurs, lui valut d'inoubliables instants. Outre qu'elle jugeait peu banales ses étreintes au fond d'une baraque, dans ce cadre de fourrures et de bibelots précieux, avec le hurlement du vent ou le bruit monotone de la pluie qui s'égoutte, elle apprit là quelques sensations notables. Marcof lui révéla un amour nouveau, l'amour humble et prosterné. Des fois, il lui ôtait sa robe et l'affublait de toisons rares, aux longs poils soyeux. Par des entrebâillements, la peau blanche luisait. Il tombait à genoux, et se frappant le front contre le plancher, il l'adorait. Tandis qu'elle, assise, le torse droit, hautaine, impassible comme une divinité, respirait l'encens de ce culte fervent. Ses caresses aussi lui semblaient d'un goût particulier. Tant de choses distinguaient cet homme de ceux qu'elle avait connus. Étant d'une autre contrée, d'une autre religion, d'une autre race, il devait inévitablement produire une impression physique différente. Ses habitudes et ses procédés ne pouvaient être les mêmes. Elle accepta cette idée si aveuglément qu'elle négligea de la vérifier. Marcof lui parut tel qu'elle le désirait. La présence ordinaire de M. Bouju-Gavard, à quelques pas de la boutique, ajoutait encore à l'originalité de ces entrevues. Lucie le savait, là. Elle le cueillait au sortir. Dès le début, il lui avait dit « C'est fini, mon mal n'a pas de remède. Du moins comme cela je puis te servir en cas d'alerte. D'autant plus que j'ai surpris sur toi, de droite et de gauche, quelques propos équivoques. » Et il attendait, affalé contre son arbre. En réalité, quoique malheureux, il se targuait d'une souffrance qu'il était loin d'éprouver. Son entêtement à se morfondre auprès de cette masure où deux êtres se possédaient cachait, plutôt que de la sollicitude, la satisfaction d'un instinct pervers. Nul espoir ne le soutenait. Les caprices de Lucie, dont il aurait dû tirer bon augure, le décourageaient au contraire. Il la croyait sensuelle. Elle choisissait des amants jeunes, aptes à l'assouvir, et ne pouvait que dédaigner les baisers d'un vieillard. Aussi, ne profitant pas de cette déchéance, il eut des remords de l'avoir provoquée. La responsabilité absolue en incombait à lui, à ses conseils, à son influence, à son exemple, à ses théories. Il essaya de la sermonner. Elle le railla. Impuissant, il subit sa défaite. Mais des révoltes terribles déchaînaient souvent contre elle. Il l'accablait d'invectives grossières. La foire touchait à son terme. Un jour, arrêtant sa filleule au milieu du boulevard, il lui lança. « Marcof va s'en aller. Toi, que feras-tu ?» Elle chantonna. « Bah, j'en prendrai un autre. » Et après ?« Un autre encore. » Il lui tordit le bras si violemment qu'elle en gémit. « Et moi, jamais ?» Elle éclata de rire, puis soudain, sérieuse, répliqua lentement. « Vous ? Vous ? Eh bien, quand vous voudrez. » Cette réponse l'étourdit, et le cerveau trouble, incapable de la suivre, il la regardait s'éloigner, se perdre dans l'ombre avec la grâce onduleuse de sa silhouette et le balancement rythmé de son buste sur ses hanches. Dès lors, il lévita. Une suprême fois, il essaya de se soustraire à sa domination. Il avait peur de cette chair qui dévorerait la sienne, peur d'une liaison où sombrerait toute son énergie, où ne lui serait épargnée nulle bassesse, peur de cette femme, de sa duplicité, de son inconscience, de son égoïsme, peur d'en pleurer, peur d'en mourir. La possibilité de la voir l'effrayait, comme un crime tentant et productif qu'on pourrait commettre en levant un doigt. Un mot, et le lendemain, sur l'heure même, elle se donnait. Ce mot, il n'osait le dire. Le Russe prolongea son séjour jusqu'à la limite permise. Mais les dernières semaines se traînèrent, monotones. Lucie manqua plusieurs rendez-vous. Elle commençait à se fatiguer de lui. Il lui manifestait une affection trop servile. Comment s'attacher à un homme qui baise la poussière de vos souliers ? Par contraste, elle rêvait d'un maître dont elle subirait le joug, et elle pensait plus à cet être imaginaire qu'à son amant actuel. Elle était lasse de ses amours fugitives. L'intérieur d'une voiture, la chambre nuptiale ouverte à tout venant, la boutique d'un forain, cela ne lui suffisait plus. Certains de ses désirs ne trouvaient pas ainsi leur réalisation. On prenait son corps, on ne l'admirait point. Maintenant qu'elle connaissait la volupté défendue, au fond toujours pareille et décevante, il lui fallait des joies d'un autre ordre. Son orgueil surtout réclamait ses droits. Sans le savoir, elle aspirait à quelque chose de plus régulier et de plus stable, de plus prosaïque et de plus commode, une sorte d'adultère plus conjugal. Le jour où partait Marcof, il voletait des flocons de neige. Son déjeuner fini, Lucie s'apprêta, sans entrain. La veille, Robert l'avait menée au théâtre. Ses paupières papillotaient. Mal disposée, elle redoutait le froid du dehors. Un bon feu brûlait. Elle s'assit, ferma les yeux et s'assoupit. À son réveil, 4 heures sonnaient à la pendule. Elle tressauta. C'était l'heure fixée. Aussitôt, elle réfléchit qu'en se pressant, elle arriverait pour les adieux. Mais une torpeur invincible paralysait ses membres. Elle grelottait. Le feu s'était éteint. Alors elle se dit « S'il m'attend, il peut bien m'attendre encore. » Elle alluma un fagot et le couvrit de bûches. La flamme pétilla, réconfortante. Les minutes s'enchaînèrent. La nuit vint et Lucie ne bougeait pas. Les coudes sur les genoux, la tête sous le manteau de la cheminée, l'esprit engourdi, vide de pensées. Il s'ensuivit une de ces périodes d'apathie que traversent les femmes, où elles négligent leur toilette, errent de tous côtés, débraillées, en savates et en peignoir sale. Elles mangeaient au repas, dormaient au lit, et le reste du temps bâillaient et geignaient. Elle entreprit l'éducation de René, acheta un alphabet pourvu d'images, mais fut si vexée que son propre fils ne put pas lire après une première leçon qu'elle le punit et le jugea d'intelligence médiocre. Plusieurs ouvrages de couture, qu'elle entama simultanément, furent laissés en plan. Elle risqua quelques promenades, elle rentrait exténuée. Rien ne la divertissait. Un matin, comme Robert l'avait quittée pour accomplir une tournée aux environs, un commissionnaire lui apporta une lettre. Elle la décacheta, c'était l'écriture de son parrain. Elle lut ces mots. « Aujourd'hui, 2 heures, place du Vieux Marché, me suivre de loin. » Elle y alla. Chapitre 4. Ils eurent une année de liaison heureuse et sans secousse. Monsieur Bouju-Gavard avait loué une chambre garnie rue Saint-Georges, dans une maison d'apparence convenable. On y accédait du palier par un couloir spécial, encombré d'objets hors d'usage. La pièce était grande, propre et froide. De la toile blanche habillait le lit et les fenêtres. Une cheminée de bois noir portait une pendule sans aiguille et deux chandeliers de verre opaques représentant des femmes nues, dans la tête desquelles étaient plantées des bougies. Une carpette de feutre s'étalait devant le foyer. Il y avait de vieux fauteuils confortables et une armoire immense où se cachait une toilette. Monsieur Boujougavard compléta cet ameublement par l'adjonction de quelques gravures licencieuses, d'une peau d'ours noir, d'une paire de pantoufles en fourrure, d'une vareuse ouatée et d'une cave à liqueur bien fournie. C'était l'hiver. Il arrivait, lui, après son déjeuner, allumait du feu, se parfumait les cheveux et la moustache, se gargarisait avec de la menthe, recouvrait ses ongles d'une pâte spéciale, s'assouplissait les muscles par des mouvements réglés et s'enduisait le corps d'aromates subtils. Puis il s'étendait et des heures passaient. Les premiers mois, ses attentes souvent longues lui furent terribles. Il doutait toujours qu'elle consentît à revenir. Une fantaisie l'avait conduite auprès de lui, une autre l'en détournerait. Et il se désespérait de sentir sa chair inassouvie, plus esclave que jamais. Le bruit de ses pas dans le couloir le soulevait. Tout de suite, il l'entraînait en pleine lumière, et il lui secouait les mains en balbutiant « Merci, merci !» Pour atteindre à la lassitude, il multiplia les entrevues et tenta de s'épuiser. Mais son désir s'exacerbait à chaque étreinte. Alors, se jugeant inguérissable et redoutant de la perdre, ce fut à elle-même qu'il s'attaqua, à ses sens qu'il savait vierge ou mal éveillé. Il agit habilement, lui révélant peu à peu toutes les perversités qu'elle souhaitait tant de connaître. L'initiation fut lente, progressive, distribuée par doses régulières. Il n'oublia rien. Lucie se prêtait à ses caprices avec une docilité paisible. Elle éprouvait du plaisir, en simulait beaucoup, mais ce plaisir était moins physique que moral. Elle s'amusait. Chaque nouveauté lui procurait une gaieté naïve, le saisissement joyeux d'un enfant à qui l'on donne un jouet inconnu. Dès son entrée, elle s'écriait « Eh bien, parrain, quoi, aujourd'hui ?» Le vice la passionnait, bien que ses nerfs n'en fussent nullement ébranlés. Et encore, ne l'aimait-elle pas pour lui-même, mais pour elle, par satisfaction personnelle. L'important n'était point de savourer une sensation neuve, mais de ne plus l'ignorer. Une force mystérieuse, en quelque sorte le sentiment d'un devoir à accomplir, la poussait. Il fallait savoir. Et elle s'en allait de là, calme et légère, le corps à l'aise, l'âme propre, sans que la pensée d'une dégradation quelconque l'effleurât. Elle rentrait, et le soir, en baisant au front son fils endormi ou en prenant place auprès de Robert, elle songeait avec une volupté douce, dans la paix de son ménage, aux caresses étranges de la journée. Aussi, malgré l'effroi de M. Boujougavard, elle revint assidûment. Tant de choses, d'ailleurs, la conviaient rue Saint-Georges, depuis le péril affronté jusqu'à la façon dont son amant en usait vis-à-vis d'elle. Elle le trouvait si comique, si peu semblable aux autres, avec son essoufflement et ses membres malingres. Ce fut précisément le spectacle de cette décrépitude qui l'attacha. Elle n'en vit pas le côté répugnant. Au contraire, elle y puisa un motif de s'exalter. Le désir de ses amants passés résultait de leur jeunesse, de leur vigueur, du sang qui affluait en leurs veines. Son désir à lui provenait d'elle seule. Elle seule, par le pouvoir de son être, l'éveillait et le renouvelait. Toute victoire obtenue sur cet être débile l'enorgueillissait comme un hommage à sa beauté, et elle s'y employait complaisamment. Il était inévitable que le caractère anormal de ces rapports s'atténuât. M. Boujougavard, effrayé soudain des désordres graves qui se manifestaient dans son organisme, en comprit la nécessité. D'ailleurs, Lucie lui semblait suffisamment conquise. Ces quelques heures constituaient d'uniques et de si puissantes diversions à la banalité de sa vie. L'habitude aussi la ramenait. Les jours sans rendez-vous lui étaient plus moroses. Rien n'en comblait le vide. Puis il ne négligeait aucun détail pour la tenir en haleine. Sachant son incurable vanité, il s'en servit comme d'un instrument commode dont il possédait les moindres secrets. Avant même d'enlever sa voilette et de l'embrasser, il la déshabillait avec des doigts fiévreux. « Ton corps d'abord, et après ton visage que tous contemplent, ta bouche qui sourit et qui parle à tant d'autres, tes yeux que déshonorent tant d'images indifférentes. » Puis il chantait ses louanges avec un lyrisme qui l'étonnait lui-même. « Je ne m'imaginais pas que l'on pût être si belle, et qu'une femme pût ainsi modifier en moi le souvenir des femmes passées, au point que toutes me paraissent laides ou difformes. » Et il s'exclamait, en se frappant les tempes de ses deux poings rageurs, comme épouvanté de son impuissance à concevoir cette beauté dans toute sa plénitude. « Mais c'est la perfection, l'absolue perfection. C'est plus beau que le rêve, plus pur que l'idéal. » Il l'asseyait sur le divan, le buste nu. La masse de ses cheveux noirs, un peu crépus, faisait un cadre à sa tête et à ses épaules. Elle se figeait aux lèvres un sourire. Une fierté indicible animait ses prunelles, dilatait ses narines, gonflait sa gorge. Les flammes coloraient sa peau de lueurs vives. Il s'écriait, enivré par sa propre extase, « Je suis fou, fou de t'aimer !»« Pourquoi êtes-vous fou, parrain ?» minaudait-elle. Elle ne le tutoyait jamais, ne pouvant point, ce qui le désolait. « Parce que tu ne m'aimes pas, que tu ne peux pas m'aimer. Parce que je ne sais pas, et que tu ne sais pas toi-même ce qui se passe dans ton cerveau. Parce qu'un jour tu me jetteras à la porte, et que je resterai, moi, aussi avide de toi. » Ils parlaient beaucoup. Leur conversation emprunta même une certaine gravité à un incident fâcheux. Un vendredi, M. Bouju-Gavard arriva, la figure décomposée. Tout de suite, il articula. « Voici, je viens de la bourse. Des amis m'ont entraîné au café. Nous étions une dizaine autour de deux tables. On a causé femme. Soudain, à la table voisine, j'ai entendu quelqu'un de nous qui disait à mi-voix « Il y a la petite Chalmin à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, à Bernay, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec un nommé Amédée Richard, un commis voyageur en bouchon, qui m'a déclaré l'avoir eue comme maîtresse après un jour de poursuite en pleine rue. » Elle bondit. « Et vous ne l'avez pas giflé ?» Mais puisque ce monsieur Richard affirme, elle lui jeta indignée, « Lâche, va !» mit son chapeau et partit. Le surlendemain, il allait chez elle, la suppliait, lui expliquait l'accès de jalousie furieuse qui l'avait égarée. Elle pardonnait. L'après-midi, quand ils furent seuls, il dit très doucement, « C'est drôle tout de même, cet Amédée Richard qui se permet... » Et d'un ton malicieux, « Voyons, Lucie, sérieusement, il n'y a pas eu quelque chose? Un badinage? Une inconséquence ?» Elle modula de son air de sincérité candide. « Comment voulez-vous, parrain, puisque je ne l'ai pas vu? Amédée Richard? J'ai beau me creuser la tête, c'est un nom qui m'est étranger. » Il lui eût été impossible de définir la raison de ce mensonge. Pourquoi lui avoir révélé ses deux autres fautes et lui cacher celle-ci? Il reprit la voix moqueuse. « Ainsi donc, c'est le docteur Danègre qui t'a débauché. »« Non, » fit-elle carrément, sans réfléchir que cette réponse impliquait la confession d'un troisième caprice. « Qui est-ce ? » demanda-t-il. Alors elle s'aperçut nettement qu'aucune de ces liaisons ne lui faisait honneur. Et comme parrain insistait, elle éprouvait le besoin invincible de se hausser à ses yeux. Elle chercha. Un nom s'offrit à elle, celui d'un noble qu'elle avait distingué au bal. Il vivait moitié dans son château, moitié à Paris. On le disait homme à bonne fortune. Elle se rappela ses jolies moustaches. Certes, cette conquête lui vaudrait du prestige. Elle déclara « Le comte de Saint-Leu ». Il rit, flairant une vantardise. « Le comte de Saint-Leu, allons donc, tu ne l'as jamais vu !» Elle fut vexée, non d'être devinée, mais du doute qu'il semblait émettre sur l'étendue de sa séduction. Et elle précisa « Il m'a fait danser au bal des Lefrennes. Le lendemain, il s'installait à Rouen. Dans la rue, il ne me quittait pas. Puis une fois, il s'est emparé de mon bras, m'a poussé en voiture et m'a mené au restaurant. » « À quelle époque ?» Elle dit au hasard « Le 30 janvier dernier. » « Combien cela dura-t-il » Elle calcula sur ses doigts « 1, 2, 3, 4, 5, 5 mois. » « Et tu l'as aimé ?» Elle scanda d'une voix solennelle « C'est le seul homme que j'ai aimé. Je l'ai adoré. » Et avec beaucoup de tristesse, « Si je n'avais eu le malheur de le rencontrer, mon existence n'eût pas été la même. Je restais une honnête femme. Maintenant, que voulez-vous, j'essaye de m'étourdir. » Elle dessina, par une élévation de son bras droit, compliquée d'un haussement d'épaule, un geste de résignation suprême. La destinée l'accablait. Elle eut si fortement conscience de la pitié que devait éveiller la prostration de son attitude et la misère de sa vie, qu'elle se plaignit elle-même. Ses larmes jaillirent, et elle maudit de toute son âme en révolte contre le mal l'homme néfaste dont l'influence l'avait dévoyée. Souvent encore, elle fit allusion à son premier amant. Elle raconta l'histoire de leur passion, leurs imprudences, leurs exploits, leurs petites querelles. Elle décrivit son caractère, sa jalousie, ses habitudes, en sorte que M. Bouju-Gavard put se former sur M. le comte de Saint-Leu une idée très complète et indestructible. À la suite de l'entretien surpris au café, Parrain établit une enquête dont le résultat fut ainsi formulé. « Ma chère Lucie, on a des soupçons à Rouen. Personne n'est certain, personne ne peut dire « Voilà, ça y est. » Mais on commence à jaser. Ton nom amène des sourires discrets, on prend des airs entendus. Hé hé, qui sait ? Ce n'est pas un bruit qui circule, un potin accepté dont on s'amuse. Ce sont des pointes, lancées de place en place, des méchancetés isolées. Il suffit d'un rien pour que tout fasse corps. Dans ce cas, tu es perdu. » Elle l'écoutait attentivement, sentant la gravité de ses paroles. « Est-ce qu'on sait pour vous ?»« Non, mais ta présence continuelle chez Marcof a été mal interprétée. » Il continua avec bienveillance. « Voyons, petite, veux-tu te mettre à dos toute la ville, par un tas de bravades absurdes, ou préfères-tu, au moyen de quelques concessions à droite, concilier tes plaisirs et ta considération ?» Dame, le choix est facile. Alors, il s'agit de réparer immédiatement tes torts. À Rouen, vois-tu, comme partout en province, le monde est le grand dispensateur des réputations. Certes, il est bête, mauvais et hypocrite. Mais tu as besoin de son estime, et il faut que tu plies devant lui, sinon il te brisera, car il est le plus fort. Il vaut mieux ici être une femme coupable qui se soumet extérieurement aux usages et aux préjugés, que d'être une honnête femme et de vivre à sa guise. Sur la première, on se taira. On inventera, s'il le faut, contre la seconde. Souvent, au cours de ses autres rendez-vous, il reprit ce thème qu'il affectionnait. Il voulait, disait-il, que son élève fût capable de discerner ses amis de ses ennemis, de se défendre elle-même, de savoir ce qui est profitable et ce qui est nuisible. Elle devait se méfier de telle personne et de tel salon, de telle classe d'individus et de tel quartier. Il étudiait les milieux, le cercle, la bourse, le palais de justice, surtout, qu'il considérait comme un foyer d'intrigue. Refuse-toi toute aventure avec ces gens-là. C'est un nid à potins. C'est là qu'ils sont engendrés. couvée, munie d'ailes et de plumes. Tous les petits du barreau, tous ces quémandeurs de cause, à genoux devant Monsieur le Président, tous ces valets d'office, tout cela grouille, jase, papote, se démène, s'entre-dévore. C'est un tas de fruits secs et d'avortés dont il faut se garer. Lucie ne prêtait à ces déclamations qu'une oreille distraite. Le sens seul lui en parvenait. Et de nouveau, la pénétrait sa vieille peur du monde. Il était l'arbitre de son honneur. Il pouvait la chasser et lui interdire les joies d'amour-propre et de luxe, qui, en résumé, lui étaient indispensables. Elle pressentit la catastrophe fatale, pensa à sa mère, à son fils, au courroux de son mari, pensa à des choses auxquelles elle ne pensait jamais et auxquelles elle ne pensa plus le lendemain, qui néanmoins influèrent suffisamment sur elle pour que sa conduite en reçût de profondes modifications. Elle revisa sa liste de visites. Deux ou trois personnes suspectes furent biffées sans pitié. Elle en inscrivit d'autres qu'elle connaissait à peine, mais dont elle jugeait les bonnes grâces utiles à conquérir. Sa mise devint aussi l'objet d'un examen sévère. Elle supprima les jupes collantes qui dessinent les hanches et les jaquettes ajustées qui accusent la poitrine. Elle ne quitta plus la capote fermée. Des brides lui cerclaient le cou. Une voilette noire couvrait le haut de sa figure. Elle dut vaincre, dès le début, une froideur générale. Visiblement, on la boudait, son manque d'égard ayant indisposé bien des dames. Mais elle désarma les rancunes par son amabilité et son extrême déférence. Elle conservait un maintien rigide, ne s'appuyant jamais sur le dossier de sa chaise, ni ne croisant ses jambes. Les mains dans son manchon, un sourire aux lèvres, elle parlait peu et répondait plutôt aux questions. Elle s'exprimait simplement, sans volubilité, riait discrètement, sans convulsion intempestive. Elle évitait de contredire, approuvait ce qu'on louait et blâmait ce que l'on critiquait. Elle s'attira de vives sympathies, des vieilles surtout, dont on désertait le salon, et chez qui elle eut l'adresse de retourner souvent, la prirent sous leur protection. Avec celle-là, elle pérorait à son aise et les éblouissait de sa verve. Ce furent de précieuses alliées. Partout, elle plut. Au bal annuel des Lefrennes, elle partagea ses danses également entre tous les danseurs. Elle choisit au cotillon les messieurs d'un âge avancé. Son décolletage ne prêtait plus à la critique. Au premier signe de Robert, elle se retira. On ne l'acclama pas les jours suivants comme la reine du bal, mais on applaudit à sa réserve et à sa distinction. Chapitre 5. L'inconduite de Lucie avait opéré entre les époux Chalmain une entente parfaite. Auparavant, l'état nerveux et inquiet de la jeune femme provoquait des périodes de mésintelligence qui tendaient vers la fin à se répéter. Il lui échappait des mots désobligeants. Robert perdait patience. Une scène s'ensuivait. Les raccommodements étaient pénibles. À vrai dire, Lucie traversait alors une crise qui détruisait son véritable caractère, fait de douceur et de dissimulation. Aucun but ne dominait sa vie. Des aspirations vagues et contradictoires la troublaient, comme l'envie de secouer son ennui, tout en se conservant un intérieur honorable. Fille d'une mère pieuse et d'un père dépravé, elle ne pouvait se contenter du mariage ni se passer de considération. Elle oscillait en tous sens, faute de l'élément de stabilité qui lui convenait. Elle manquait d'équilibre. Cet équilibre, l'adultère le lui donna. Il mit en jeu toutes les facultés inoccupées de son être, combla les vides, aplanit les aspérités. Ses instincts, qui contrariaient, la gênaient, assouvis, contribuèrent à sa santé générale. Pourvue d'un époux et d'un amant, elle remplit les exigences de sa double nature. L'harmonie fut rétablie. Robert en eut le bénéfice immédiat. Son ménage recouvra cette belle tranquillité dont l'absence commençait à l'importuner. Les soins affectueux de sa femme ne se démentirent plus. Ils croissaient même en proportion des plaisirs extérieurs que goûtait Lucie. Après quelques débauches, elle appréciait mieux les avantages qu'il lui apportait. C'est à cette époque que Robert reçut une lettre anonyme. On lui dénonçait l'intrigue de Madame Chalmin avec un très vieil ami. Il la plia, la serra dans son portefeuille et conclut. Lucie va bien rire. Mais à midi, un client arriva qu'on retint à déjeuner. Le soir, Madame Ramel dînait. Robert oublia la lettre. Il ne s'en souvint qu'une semaine plus tard en triant ses paperasses. Cette fois, il y réfléchit. Quelle chose abominable! Tout de même, si je n'étais pas sûr d'elle, comme je me tracasserais! Il relut. Un vieil ami, très vieux. Qui peut-on désigner ainsi? Est-ce l'œuvre d'un méchant ou l'erreur d'un convaincu abusé par de fausses apparences? Cette dernière hypothèse l'attrista. Ainsi, quelqu'un peut-être croyait à la trahison de sa femme. Quelqu'un la méprisait. Un remords l'assaillit envers elle, comme s'il eût été coupable en ne la garantissant pas de telles humiliations. « Puis-je entrer ? » demanda-t-on en frappant à la porte de son bureau. Il eut un cri de contentement. Il reconnaissait la voix de Madame Bouju-Gavard. Sans lui laisser le loisir d'expliquer le motif de sa visite, il lui tendit le papier. « Votre avis, franchement ?» Elle parcourut et comprit tout de suite. Rien ne s'opposa à l'absolue certitude qui l'étreignit. Instantanément, la coutume où se tenait son esprit de considérer Madame Chalmin comme inattaquable fut déracinée. Des faits, des tas de faits jusqu'alors futiles, acquirent leur importance. Tous ils accusaient la complicité de M. Bouju-Gavard et de la jeune femme. Elle leva les yeux et aperçut Robert qui la dévisageait. Le silence devenait maladroit. Elle eut l'énergie de sourire. « Eh bien, après, je suppose que vous n'y ajoutez pas foi ?»«
Assurément non, mais dans quelle intention ?»
Elle soupira. « Ah, mon ami, c'est si facile de s'installer devant une table, de prendre une plume et d'écrire quelques vilainies. À Rouen, cela se pratique couramment. »
Elle réussit à lui rendre courage, ayant de ces paroles fortes qui cicatrisent les plaies de l'âme.
On doit dédaigner la médisance. L'écouter, même sans y croire, c'est dégrader l'épouse. Or, vous savez, Robert, que la vôtre est au-dessus du soupçon. Madame Bouju-Gavard ne souffla mot de cette lettre à son mari, sentant de ce côté toute remontrance superflue. Mais un matin, elle se présenta chez Lucie. Elle la trouva couchée.
« Comme c'est obscur !» dit-elle. « J'aime bien la clarté, moi !»
Elle fit glisser les rideaux. De la lumière jaillit. Alors elle s'approcha et contempla sa rivale.